impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire,
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreau et victime en mêlent la racine »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Sous de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix des chroniques d'un voyage en Sibérie. Avant de partir pour cette région cet été, nous avions relu de façon un peu décalée Michel Strogoff, le roman de Jules Verne, et puis, en parcourant la Sibérie jusqu'à Irkoutsk, nous avons découvert ces chroniques écrites par Anne Brunswick, intitulées « Sibérie, un voyage au pays des femmes », paru en 2006. Quelques précisions sur ce pays, la Russie, et sur cette immense région, la Sibérie. La Russie, c'est 31 fois la France, et la barrière naturelle de la chaîne de l'Oural met un quart de la Russie en Europe et les trois autres quarts en Asie, la Sibérie. La Sibérie, c'est 24 fois la France où vivent 30 millions d'habitants sur les 142 millions de Russes. Différents peuples la composent, une majorité de Slaves de culture chrétienne orthodoxe et plus de 30 ethnies de population nomades, premiers habitants de la Sibérie, qui se sédentarisent au fil des temps. Les Nénètes, les Bouriates, les Yakoutes, les Tatars, populations mongoles et turques. Un climat rude sévit, cela peut varier de 40 degrés l'été à moins 60 degrés l'hiver. Quelques villes de la Sibérie, halte du voyage d'Anne Brunswick, Irkoutsk, qu'il ne faut pas confondre avec Yakoutsk, Magadan, Vladivostok, terminus du Transsibérien qui commence à Moscou, ce qui fait 8000 km, et Novosibirsk, la capitale de la région. Les ressources minières y sont incomparables. Or, argent, diamant, nickel, charbon et surtout pétrole et gaz, exploitation réalisée de tout temps par des déportés, notamment ceux de l'archipel du Goulag. Chaque chapitre des chroniques écrites par Anne Brunswick commence comme ceux de Jules Verne, où l'on apprend que, mais décline de manière approfondie des visages de la Russie d'aujourd'hui. Ainsi, le premier chapitre est-il intitulé « Où l'on s'ajuste autant plus aisément qu'aux mœurs ». Nous voyagerons donc comme la journaliste, de Moscou à la Yakoutie, de Magadan à Vladivostok, et chacune des six lectrices vous proposera des extraits d'un des 16 chapitres que compose cet ouvrage.
Chapitre 2. Première halte de notre voyage en Sibérie, plus exactement à Yakoutsk, située sur la Léna dans la partie extrême orientale de la Sibérie. Ce chapitre s'intitule « Où des femmes de cœur se racontent à mi-voix ». C'est l'une de ces femmes, Varvara Arkouk, grande figure de la mythorité yédvène, poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage. Un repas de fête est dressé sur la table de la cuisine. Avant le repas, l'hôtesse procède à un rite de purification en promenant au-dessus de la table une bougie. Après quoi, ces trois invités peuvent manger et boire, mais pas elles, car la coutume interdit que la maîtresse de maison Even touche au plat en présence de ses convives. Son mari, s'il était là, pourrait se joindre aux agapes, mais il est parti pêcher pour quelques jours. Sa vie en quelques mots. Elle est née il y a 56 ans, dans les montagnes à l'est de la Yakoutie, près de ce que les Russes appellent le pôle du froid. Son père possédait un troupeau d'environ 700 rennes. Elle avait un an lorsque sa mère est morte. Jusqu'à 7 ans, sous la protection de son frère aîné, elle a partagé la vie des nomades. Avec ses trois frères, ses deux sœurs et une dizaine de cousins, escortant toujours les troupeaux de rennes. Chaque jour, le groupe de trois familles se déplaçait sur une dizaine de kilomètres et installait un nouveau campement. Les femmes tassent la neige, dressent la tente et la protègent du vent. Elles vont couper du bois, préparent le feu. Les hommes chassent, car il faut bien nourrir la famille. Ensuite, Varvara est allée en ville, dans un internat russe, qu'elle ne quittait que pendant les vacances d'été. Nous n'avions rien à nous. L'État nous fournissait tout gratuitement, même les vêtements et les sous-vêtements qu'il fallait rendre à la fin de l'année. L'année suivante, c'était une autre qui portait mes bottes ou ma veste. Sur 1000 enfants et veines, 3 ont réussi le concours d'entrée à l'université, les autres ont repris la vie nomade ou se sont fixés dans des villages misérables. Depuis l'ouverture du département des langues indigènes en 1991, Varvara forme des institutrices. De 4 écoles où l'on enseignait la langue évène, à côté du russe, on est passé à 20. Sarina, concernant les mœurs actuelles, voilà ce que me décrit Varvara. Chez les Évènes, les femmes se couvrent les cheveux, les jambes, la gorge et les épaules, au contraire des Tchouktches qui portent des robes de fourrure parfois très décolletées. Une femme ne doit jamais marcher devant son mari. Les anciens décident des unions et des jeunes sont mariés dès la puberté. Les femmes accouchent debout, en s'accrochant à une barre, souvent sans l'aide de quiconque et sans lâcher une plainte. Beaucoup d'enfants disparaissent en bas âge et l'espérance de vie ne dépasse pas 47 ans chez les hommes. On n'est pas tendre avec des enfants qui doivent être capables de se débrouiller seuls dès 6 ans. On manifeste peu ses sentiments. Les mœurs sont rudes, conclut Varvara, car le danger est omniprésent. Au niveau politique, Varvara a vécu comme une catastrophe l'effondrement du système soviétique, spécialement pour les minorités isolées du Grand Nord. Autrefois, on avait des médicaments, la poste fonctionnait, les transports n'étaient pas chers. Aujourd'hui, beaucoup d'Évènes n'ont plus de troupeaux et sont chômeurs dans les villages. L'alcoolisme vient beaucoup de là. Sur nos nouveaux passeports ne figure même plus la mention de notre peuple. Notre identité sera bientôt complètement effacée, alors que même les plantes ont chacune leur nom. Les Évènes ont 150 mots relatifs aux rennes et une vingtaine pour qualifier les différents états de la neige. Varvara est intarissable sur les écureuils, les chiens, les pommes de pin, les tisanes, les baies. Chaque été, avec son mari, elle part dans les montagnes de l'Oïmiakon, campée au bord des rivières. L'hiver, lorsque nous sommes en ville, nous marchons au moins 2 heures chaque soir dans les environs, juste pour prendre l'air et rester en forme. Pour cueillir des champignons, peut-être? Non, chez nous, ce sont les rennes qui les mangent, pas les humains.
Nous sommes maintenant à Magadam, qui se situe sur la côte ouest de la Russie et à 2700 km de Yakoutsk. Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit », Anne Brunswick laisse la parole à Natalia. Un dimanche de novembre, près de Magadam, une voix rauque, presque cassée, une chemise de bûcheron à grands carreaux, une forte tignasse grise et bourriffée, le gros rire sonore d'une qui sait attraper le bonheur, même le plus minuscule, par les cheveux. Un air de bohème dans l'appartement. Dès que Natalia m'a ouvert la porte, je me suis sentie de plein pied en amitié. Natalia habite à Ola, une petite ville de pêcheurs sur la baie de Gardner, à une demi-heure d'autocar de Magadan. Le studio de Natalia date des années 90, mais avec un confort des années 50. Pas de réfrigérateur, ni de bouilloire électrique, ni de four, ni même de placard dans la cuisine, pas de lavabo dans la salle de bain, un vieux poste de radio, mais pas de télévision dans l'unique pièce où Natalia a son lit, sa table, son accordéon, ses partitions, ses photographies et quelques piles de souvenirs. Natalia invite à un voyage dans le temps. elle ne sait pas exactement quand elle est née, en 1932 ou 1933, ni qui étaient ses parents naturels. Ce dont elle est sûre, c'est que l'homme qui l'a sorti de l'orphelinat était Iejov. Elle s'interrompt. Nikolaï Ivanovitch Iejov, voyez ? Oui, l'homme des basses œuvres de Staline, commissaire du peuple aux affaires intérieures, organisateur des grandes purges de 1937-1938, la pire époque de terreur que l'URSS ait traversée. Un homme universellement haï. Natalia ne l'a connu que comme père, elle l'a adoré. Sans doute plus qu'aucun autre homme. Elle se souvient des 5 années où elle a vécu avec le couple Iejov comme d'un enchantement permanent. La luxueuse datcha proche de Moscou où elle se faisait dorloter par une nounou à son service exclusif. Mais surtout les innombrables gâteries de son père qui la promenait sur ses épaules, lui chantait des chansons, la couvrait de jouets. Fin 1939, Iejov est arrêté, accusé de complot contre Staline et d'espionnage au profit des Anglais, condamné à mort par le tribunal militaire suprême pour haute trahison. Fusillé en février 1940. En pleine nuit, la fillette de 6 ans est emmenée sous escorte policière à l'orphelinat de Penza. Pendant tout le trajet, 2 jours de voyage au cours desquels elle ne reçoit aucune nourriture, les policiers lui font répéter son nouveau nom de famille, Kayutina, en la giflant sur la bouche chaque fois qu'elle se trompe. À l'orphelinat, puis à l'internat scolaire de Penza, elle partage le sort d'autres fils d'ennemis du peuple, dont beaucoup sont les victimes de son père. Elle devient pour tous un objet d'horreur et de haine. À 14 ans, elle quitte l'orphelinat pour un atelier de couture. À 20 ans, elle parvient à entrer au conservatoire. Quelques jeunes gens la courtisent puis rompent sans explication. On n'épouse pas la fille d'un tel père, fût-elle sa fille adoptive. Elle reste seule avec l'accordéon qui désormais l'accompagnera partout. Après ma fille, je suis partie très loin, en Tchoukoutcha, espérant qu'on m'oublierait enfin. J'ai enseigné la musique, dirigé des chorales, composé des chansons. Mais le KGB gardait toujours un œil sur moi. Dans chaque localité, au bout de 24 heures, j'étais convoquée par les services de sécurité. Ça ne loupait jamais. J'ai eu une vie dure, souvent très amère, mais j'ai confiance. J'aime la vie. La Russie aussi va s'en sortir. J'ai confiance en Poutine. On va se redresser. De toute façon, le pire, on l'a déjà eu. En 1995, Natalia est entrée en correspondance avec un militaire retraité qui écrivait une biographie de Nikolaï Iejov. Il l'a persuadé d'entamer des démarches pour obtenir la réhabilitation de son père. « Je ne dis pas que mon père n'a pas commis de faute, non. Mais il n'est pas coupable de ce dont le tribunal l'a accusé. Non, je voudrais être enfin reconnue comme victime de la répression et reprendre mon vrai nom. Et si ce n'est pas pour moi, au moins pour que ma fille et mes petits-enfants soient définitivement lavés de cette accusation. Mon père n'était qu'un exécutant. » Natalia a composé des dizaines de chansons. Ses poèmes ont paru dans plusieurs recueils. Elle en compose encore quand les idées noires l'assaillent. Ces derniers temps, elle a publié dans le magazine local en feuilleton l'histoire de sa vie. Peut-être, un jour, en tirera-t-on un film ? Victime et bourreau sont les deux faces d'un même peuple. Leur histoire s'entremêle au sein des familles, souvent au cœur des individus eux-mêmes.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé « Où l'on reçoit bien plus de leçons qu'on en donne ». Cette chronique de décembre remue beaucoup de pensées hivernales. Je pourrais raconter en plus souriant. Irkoutsk ne manque pas de charme. Comme me l'a fait remarquer Rodjansky, le centre de cette ville, ce ne sont pas les édifices du pouvoir politique, mais les étals du marché. C'est là que convergent tous les tramways. J'aime leur manière de glisser dans les ruelles enneigées. J'aime la cohue qui se forme à leur approche sur la place de la gare. Une gare peinte en vert et rose, comme un gros gâteau. J'aime le fracas des rails lorsqu'on passe sur le pont de l'Angara. Et couvrant le choc des métaux, le vacarme des haut-parleurs. Tout ce cirque pour la corrida de Noël. Avenue Karl Marx, promotion exceptionnelle sur les téléphones portables. Au marché, de vieilles Russes en fichus fleuris vendent de la graisse d'ours dont on se frictionne la poitrine en cas d'angine. L'odeur fait-elle reculer les microbes? Elles ont des remèdes contre la migraine, l'insomnie, la constipation et la gueule de bois. Leur tisane de la taïga soigne le cœur, la vessie, les reins, la rate, les artères. D'autres dames aux joues roses proposent des oies bien grasses et des canards d'élevage. On trouve dans leurs seaux en fer blanc des baies sauvages rouges, roses, orangées, jaunes, bleu foncé ou violettes. Les fermières bourriates vendent en vrac des laitages liquides ou solides, frais ou fermentés, blancs ou jaunes, onctueux ou grumeleux, caillés, petits laits, tvorog, crème ou beurre, venus tout droit des kolkhozes du lac Baïkal. Dans les poissonneries, c'est le petit omoul du lac, bien meilleur que la truite, qui domine. Mais on trouve aussi de grosses bêtes à moustaches, des silures, des saumons, des esturgeons, des turbots et des brochets géants, à la mesure du lac dont ils sont sortis. Le marché offre d'infinies variétés de caviar, œufs de saumon, d'esturgeon ou de hareng, salés ou semi-doux. Il règne ici une opulence que je n'avais pas vue à Yakoutsk ou à Magadan. Un certain art de vivre aussi. Des cafés, des pâtisseries, des librairies et même des antiquaires. La vie intellectuelle et artistique est plus diverse, plus imprévisible, parfois même tumultueuse. Metteur en scène de son état, Livante n'est pas de ceux qui se laissent grignoter par la grisaille. Dans son appartement de 3 pièces, il a aménagé un théâtre de poche avec un long rideau de velours noir et quelques accessoires. C'est là qu'il travaille avec 4 jeunes filles qu'il a choisies exprès en dehors du conservatoire. Les acteurs russes sont d'excellents professionnels, mais ils ne sont pas prêts à se mettre en danger. Ils répètent ce qu'ils savent. Au théâtre comme en musique, la technique est au cœur de la formation de nos interprètes, pas la créativité. Au contraire, avec mes 4 comédiennes, c'est un bonheur, on peut tout inventer, on s'amuse énormément. Ancien professeur de français à Birobidjan, il a traduit Prévert en russe. Igor Livant parle un français épicé d'accent russe et d'expression yiddish. De la gaieté, de la malice, des pointes d'humour tristes. Il aurait pu, comme beaucoup de ses amis, émigrer en Israël, mais il n'aime pas l'idée de se retrouver dans un ghetto. Il aurait pu, comme d'autres ambitieux, partir pour Moscou. Il s'est arrêté à Irkoutsk. Parce que la Sibérie le fait encore rêver. Igor Livant m'a emmené dîner chez des amis qui lui ressemblent, entreprenants, imaginatifs, tenaces face à la bureaucratie. Pendant que nous dévorions des blinis à la crème, aux choux et au caviar, Kostia, le kinésithérapeute, causait de sa future clinique, Elena, la présidente d'une ONG humanitaire, de son projet pour sauver les villages du Baïkal. Ensuite, les vieux amis ont tous levé leurs verres et chanté les hymnes rouges des Komsomols. Dans la nuit blanche et douce, j'ai fait un bout de chemin au bras d'Elena. Nous n'avions plus envie de nous quitter. C'était le 24 décembre.
La Kolyma, un fleuve de 2000 km qui donne son nom à une région de l'extrême-orient russe, région Grom comme la France, 600 000 km², région riche en or, capitale Magadan. Terre de déportation et de goulag sous le régime soviétique, des milliers de prisonniers sont morts à la Kolyma. Le système soviétique poursuivant un double but, l'exploitation des ressources minières et simultanément la liquidation des opposants. Une maxime connue dans toute la Russie, Colima, Colima, ô terre enchantée, l'hiver a 12 mois, tout le reste c'est l'été. Suite des chroniques de la Colima, extrait du chapitre 15, où l'on revient en mai sur les pas de novembre. Sur la plage de Magadan, la neige a fondu. Couché de soleil interminable, tiède, orangé, avec des mouettes qui s'égosillent, des enfants qui ramassent des coquillages. C'est de paix de Nagayevo, de mémoire sanglante, sur lesquels, là-bas, dans ce qui est aujourd'hui le port de commerce, débarquèrent par milliers des zecs affamés, hagards, humiliés. Evgenia Gainsbourg raconte ces morts-vivants qu'on sort des cales, ces centres de tri où l'on sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois. La fillette qui ramasse des coquillages s'appelle Julia et sa maman Nina s'ennuie un peu. Son mari l'a quittée peu après la naissance de cette petite fille fragile. Nina s'est mise à travailler à la maison. Traitement de texte, révision, déclaration d'impôts. Avec ça, financièrement, elle s'en tire très bien. Pour le reste, elle a pris 40 kilos depuis sa grossesse. La solitude, sans doute. L'appartement de Nina consiste en une grande pièce. Nina et la petite Julia partagent le même lit avec une dizaine de peluches. Le lendemain, j'ai retrouvé Anna, toujours en jean et t-shirt, éternelle étudiante. C'est une autre célibataire qui élève seule un enfant malade. Elle aussi gagne bien sa vie grâce à un travail indépendant à domicile. Le petit Andrei est un métis bourriate qu'elle a sorti d'un orphelinat pour l'adopter. Au salon de coiffure, j'ai retrouvé Elena, la manucure, toujours tirée à quatre épingles, toujours causante. En ce moment, elle est très en colère contre ces hommes politiques qui affichent partout leurs bobines. Ce sont tous des brigands. Ils n'ont même pas le courage de taxer l'alcool. La bière à 20 roubles, la vodka à 70 roubles, 2 euros le demi-litre. C'est tout simplement criminel. L'hiver dernier, un jeune soldat est mort de froid à Magadan. Leurs officiers, je suis sûre qu'ils étaient bien au chaud. Si la guerre de Tchétchénie ne profitait pas à quelques salopards, elle serait finie depuis longtemps. Au café, au bout de la plage, la cuisinière, c'est une grosse bonne femme adorable, ancienne géologue reconvertie dans la cuisine après la fermeture de la mine. Comme beaucoup, nous sommes arrivés avec mon mari qui était aussi géologue en 1970. Nous devions rester 3 ans et 35 ans ont passé. En Russie, on dit que rien ne dure plus longtemps que le provisoire. Vendredi matin, j'ai repris l'autocar de la Colima. Une laideur suffocante, 540 kilomètres. Les chauffeurs me répètent que cette route a été tracée au prix de milliers de morts. Ils ajoutent, lorsqu'on creuse, on tombe souvent sur des crânes. La route traverse des cités fantômes. Nous arrivons à l'ancien camp d'Elguen. Evgenia Gainsbourg y a passé au moins 5 ans en captivité. Ouvrière au poulailler, éducatrice à l'orphelinat, infirmière au dispensaire. Les champs qui couvraient plusieurs centaines d'hectares sont à l'abandon. Le village aussi. Sur 3 000 habitants, il en reste une centaine. Beaucoup de vieux qui n'ont nulle part où aller. Plus loin, le cimetière d'Elguen, le cimetière des enfants. À l'orphelinat, il en mourait beaucoup. Les détenus devaient abandonner leurs petits quelques semaines après l'accouchement. Le manque d'affection était la principale cause de mortalité. Les champs, là-bas, ils existaient déjà avant ? Non. Il n'y avait que la taïga. Ce sont les aigles qui ont défriché.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle. Chapitre 8. Originaires d'Odessa, les Teutsmann sont arrivés au début des années 1930 avec quelques dizaines de milliers de pionniers. Le projet communiste d'alors consistait à implanter les Juifs dans une région autonome où toutes les manifestations de la culture juive seraient encouragées, à l'exclusion de la religion. Mais la ligne ne tarda pas à changer. Pendant que son père, condamné en 1937 pour nationalisme juif, purgeait ses 10 ans de travaux forcés, Lev Teutmann s'illustrait sur le front de l'Ouest. Au temps de la guerre froide, la campagne contre le cosmopolitisme, de 1948 à 1953, faillit bien liquider la région autonome juive. Accusé cette fois de sympathie pour Israël et d'espionnage au profit des États-Unis, les cadres politiques juifs furent à nouveau arrêtés et l'on brûla devant la bibliothèque plusieurs dizaines de volumes en yiddish et en hébreu. À la mort de Staline, les persécutions cessent et Teutmann, communiste irréprochable, monte en grade. Insubmersible, il est depuis 50 ans le représentant officiel des Juifs du Birobidjan. Les autorités nous écoutent, nous ne sommes pas très nombreux et nous n'avons jamais été majoritaires. Mais nous avons voix au chapitre. Au moins ici, il n'y a pas d'antisémitisme. La propagande d'Israël en faveur de l'émigration n'a-t-elle pas été source de friction ? Lev Teutmann assure que les relations sont bonnes, même si les subsides israéliens ont chuté depuis le début des années 1990. À cette époque, le consul israélien venait souvent et il tamponnait des visas du matin au soir. Maintenant, ce sont surtout les Américains qui nous aident. Printemps 2004, la région autonome juive, que l'on appelle simplement en français le Birobidjan, a célébré avec faste son 70e anniversaire. La vodka a coulé jusqu'en Israël, où le maire, Alexandre Aronovitch Vinnikov, s'était déplacé spécialement pour festoyer avec ses anciens administrés. Beaucoup sont partis au début des années 1990, quand c'était le chaos, que les salaires n'étaient plus versés, qu'on n'avait plus rien pour vivre, m'a raconté Valentin Pasmakin, un retraité très actif à la synagogue. Nos deux grandes usines de tracteurs et de confection ont fermé, et du jour au lendemain, des familles entières se sont trouvées sans rien. Les jeunes ont émigré les premiers, pour le saucisson, comme on dit ici. Après, les vieux sont partis pour les rejoindre. Mais ça ne leur a pas toujours réussi. Je pense à mon coiffeur. On l'appelait tous oncle Micha. Toute la population masculine faisait la queue dans sa boutique. Pas seulement parce qu'il coupait bien, mais parce qu'avec lui, on pouvait commenter les dernières nouvelles de Moscou ou discuter de la couleur des chemises à la mode. Et il racontait des blagues sur tout. C'était un type épatant. À 72 ans, il s'est retrouvé veuf et il est parti vivre chez son fils en Israël. Il est mort 5 mois plus tard. Les blagues, qu'on appelle en russe anecdotes, courent ici par dizaines. Auteur d'un petit recueil d'humour juif, Valentin Pasmakin m'en a raconté quelques-unes. Voilà. En Méditerranée, deux paquebots se croisent. L'un d'eux va d'Urs en Israël, l'autre en sens contraire. Les passagers des deux bateaux accourent aux rambardes en se tournant l'index sur la tempe. « C'est la manière juive de dire bonjour ?» demande un étranger. Une autre. En raison de l'inflation, le Conseil législatif de la région autonome juive vient de prendre un décret. La danse traditionnelle juive 4-7 sera désormais appelée 4000-7000. Une autre. Où se situait le paradis d'Adam et Ève ? Un endroit où des gens pieds nus, sans rien sur le dos, avec une seule pomme pour deux, se croient au paradis.
c'est l'URSS. Une autre.
Haïm, ton chien m'a encore mangé une poule.
Tu fais bien de me le signaler. Je lui donnerai rien à manger ce soir.
Une autre. Allô, Joseph, comment ça va?
Bien. Pardon, j'ai dû composer un faux numéro.
Toute sa vie, Passemakine a été communiste.
Comme tout le monde, complète-t-il.
Et juif. Franchement, ça n'était qu'une ligne sur mon passeport. J'étais à l'école ici avec les autres, puis à l'armée et à l'usine. Comme ouvrier, je gagnais bien, 3 fois plus que l'ingénieur. J'ai suivi les cours du soir, obtenu une médaille du travail. J'ai eu exactement la même vie que les autres, et je n'ai jamais souffert de l'antisémitisme. Au moment de la perestroïka, lorsque chaque peuple a affirmé son identité, j'ai eu un peu honte de ne rien savoir de nos traditions. Je me suis mise à lire, mon père m'avait appris le nom des fêtes juives, mais je ne savais pas à quoi ça correspondait. Il savait égorger un poulet selon les règles, mais c'était interdit, et d'ailleurs, ça n'intéressait personne.
Le chapitre 16 est intitulé « Où l'or ne brille guère et n'enrichit personne ». De la cité minière de Kolodny, Anne Brunswick retient surtout les rencontres, comme celle avec Nina Romanova, qui évoque son passé. À Kolodny, Micha me suggère un autre rendez-vous. Nina Romanova, 82 ans, ancienne détenue, a bataillé pendant plusieurs années pour faire ériger un monument en hommage aux femmes prisonnières de la Kolyma, finalement inaugurée en 1997. La vieille dame n'a pas pu être prévenue de notre visite, elle n'a pas le téléphone. Mais elle ouvre grande sa porte et me propose aussitôt thé, bonbons et chocolat. Tablier à fleurs, fichu à fleurs, dessus de lit à fleurs, tapisserie murale à fleurs. Dès qu'elle se met à causer du passé, son visage s'anime, ses yeux s'agrandissent, ses rides s'effacent, son vieux corps se remet en branle avec une surprenante vigueur. Après-guerre, la vie était dure. Pour avoir vendu ma robe et quelques coupons de tissu, j'en ai pris pour 5 ans. Spéculation, marché noir. J'ai purgé 2 ans et demi de travaux forcés dans une briqueterie. Ensuite, on nous a tout expédié sur la Kolyma comme travailleuse libre en 1949. Voilà seulement 2 ans que je me repose. Il était temps. En tout, cela fera bientôt 56 ans que je vis ici. On m'a attribué la médaille de vétéran de la Kolyma et une pension de veuve. Nina Romanova ne se plaint pas, n'envisage pas de partir. À mon âge, je ne vais pas déménager, c'est trop tard. Je suis née près du Caucase, mais quel sens cela aurait de revenir aujourd'hui? Mon père avait des chevaux, des vaches. Il a refusé de rejoindre le Kolkhoz. On a été découlakisés. Il en a pris pour 5 ans, ma mère 3. Pendant ce temps-là, mon frère et moi, nous avons été placés dans un orphelinat où on crevait de faim. L'année 1933, atroce. Les enfants mouraient les uns après les autres. Une telle famine, on n'avait jamais vu de pareil. Comme il ne se sentait coupable de rien, mon père s'est évadé. Ce n'est qu'en 1962 que nous avons reçu sa réhabilitation et que nous avons pu nous réinscrire sous son nom. Nous avions été obligés de prendre celui de notre mère. Personne ne sait exactement quand il est mort, ni où. Puis c'est avec Angela, une jeune femme yakoute, que l'auteur plonge dans le présent. À l'épicerie, une jeune femme yakoute m'interpelle. « Vous n'allez pas manger toute seule dans votre chambre d'hôtel? Emportez vos petites provisions et nous dînerons ensemble. » Angela, c'est son nom, porte blouson de motard et jeans serrés, ce qui n'est pas courant dans cette ville où d'ailleurs les yakoutes ne sont pas légion. « Vous êtes la première Angela que je rencontre en Russie. Je suis née en 1972 et mon père aimait Angela Davis. On voyait ses affiches partout à l'époque. Évidemment, je n'ai pas hérité de ses cheveux frisés. » Mon hôtesse travaille à l'école maternelle comme monitrice d'activités artistiques. « Venez me voir à l'école. Et demain, c'est la journée porte ouverte et l'après-midi, la fête de fin d'année. L'école valait certainement le détour. Dans cette ville où l'on enjambe souvent les détritus, où les vieux radiateurs servent de passerelle à travers les flaques de boue, l'école est comme un hôtel 5 étoiles. On se déchausse à l'entrée et l'on pénètre dans un monde entièrement recouvert de fresques colorées, de personnages de contes, d'animaux qui parlent. Gymnase, salle à manger, jardin d'hiver, salle de musique et même piscine, rien n'y manque. Sauf peut-être les élèves. Voyager ici, c'est souvent glisser entre des temps différents qui se télescopent, des comportements, des manières de penser, des modes qui se chevauchent, se contredisent ou se coagulent.
Nous vous avons lu des extraits de Voyage en Sibérie, des chroniques au pays des femmes, récit publié aux éditions Actes Sud en 2006. L'auteur, Anne Brunswick, journaliste française, est également cinéaste. Son talent de documentariste se double d'une grande humanité. Elle a obtenu le prix RFI Témoin du Monde en 2005 pour Bienvenue en Palestine, chronique d'une saison à Ramallah. Nous espérons que cette lecture vous incitera à la découvrir. C'est Okna Tsa'an Zam qui a interprété des chants chamaniques, évocateurs de ces grands espaces de la Sibérie. Vous avez entendu successivement la voix de Marie, de Valérie, d'Annie, d'Armel, de Gabriel et d'Anne qui ont préparé cette émission.
Philippe a présenté l'émission. Claude, Michel et Vincent étaient à la technique.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.